Vous écoutez Quad Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux, chaque semaine, accompagnée de l'une de mes acolytes. On parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et je suis Kémis.
C'est parti !
I have been woman for a long time. Beware my smile. I'm treacherous with old magic and the noon's new fury. With all your wide futures promised, I am woman and not white.
Bienvenue dans cet épisode court. Cette semaine, on parle de mots, de voix, de souffle épique et surtout de poésie féministe. On vient d'entendre le poème A Woman Speaks d'Audre Lorde, lu par Alice Heathwood. Et alors, on est avec la plus incantatoire des chroniqueuses de Quad Meuf, qui est Miss. Coucou.
Hey.
Alors, pour parler un peu du contexte, on l'ignore trop souvent en France, mais aux États-Unis et en Angleterre, et plus généralement dans le monde anglophone, la poésie a le vent en poupe en ce moment. D'ailleurs, elle a toujours eu une place importante chez les Noirs américains, notamment avec le négro spirituel, la tradition du slam et de ce qu'on appelle le spoken word, donc les mots lus sur scène. Mais elle connaît une résurgence ces jours-ci qui dépasse largement le cercle des personnes engagées. D'ailleurs, en 2018, plus d'un million de recueils de poésie ont été vendus au Royaume-Uni. Alors pourquoi cet attrait pour la poésie, surtout à en croire l'étude du Nielsen Bookscam chez les jeunes femmes de moins de 34 ans? On peut citer aussi une augmentation de 12% des ventes de poésie en 2018, toujours en Angleterre. Voilà, tout ça c'est quand même assez encourageant pour le marché du livre, surtout quand on entend dire que les jeunes ne lisent pas ou alors ne lisent pas ce qu'il faut.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que la poésie qui touche en ce moment, elle est beaucoup plus engagée et elle est militante. En fait, les sujets qui sont abordés par les jeunes poétesses et les poètes aussi, puisqu'il y a des poètes, c'est des sujets qui touchent leurs lecteurs et qui touchent leurs lectrices. Donc, tu as des sujets comme le féminisme, l'antiracisme, les LGBT-phobies, la santé mentale, la lutte contre la grossophobie. Et en fait, ça marche et ça a du succès. Pourquoi ? Enfin, à mon avis, c'est parce que c'est actuel et que ça a pour but de dénoncer des inégalités et des injustices, en fait. Donc, ce qu'on peut noter aussi, c'est que ces auteurs et ces autrices, ils ont choisi des formats courts qui, donc, en fait, ça permet la diffusion super rapide de leurs écrits. Et on peut citer comme plateforme que ces poètes utilisent Tumblr, un petit peu Twitter, et on a surtout Instagram. Et en s'ajoutant, en fait, à la culture du slam et du spoken word, en fait, la poésie, elle a envahi des nouveaux médiums. Et ce qui est intéressant de noter, c'est l'exemple de la page Button Poetry. En gros, c'est une plateforme, en fait, c'est un site et c'est une plateforme qui permet de booster des jeunes auteurs de poésie et autrice de poésie, qui propose des romans et qui propose aussi des concours et des bourses. Et cette page, en fait, elle a dépassé le million d'abonnés sur YouTube. Donc, ça, c'est intéressant.
Ouais, c'est énorme. Et tu l'as dit, c'est surtout un format qui tranche, en fait, avec les poèmes dont on a l'habitude, qui nous rappellent surtout les bancs de l'école.
Carrément.
Et ce qu'on lit aujourd'hui, c'est très souvent écrit en vers libre, très court. Et donc, effectivement, ça facilite la capacité de partage et de repartage sur Instagram. Mais on va en parler un petit peu après.
Aujourd'hui, on a envie de s'attarder sur l'anthologie qui vient de sortir, donc l'anthologie de poésie qui vient de sortir aux éditions Cambourakis.
Alors effectivement, le mois dernier, donc les éditions Cambourakis ont publié une anthologie de poèmes, et je pense qu'il était temps. Ce livre s'appelle « Je transporte des explosifs, on les appelle des mots ».
Mais cette phrase.
Ouais, super titre. Et donc, tout ça, c'est écrit par des autrices et des militantes féministes américaines majeures, donc Audre Lorde, Adrienne Rich, Bell Hooks, Gloria Andaluza, Asata Shakur, des figures majeures des luttes féministes et antiracistes des années 70 et 80 jusqu'à aujourd'hui, qui parlent dans leurs écrits à la fois de leurs conditions, de la féminité, de la maternité, de se sentir parfois monstrueuse ou inadéquate, d'être une femme handicapée. C'est parfois très politique et parfois tout à fait d'actualité, comme ce poème que l'on va écouter, Hijab Scene No. 7 de Moja Kaf, qui parle de porter le voile.
No, I'm not bald under the scarf. No, I'm not from that country where women can't drive cars. No, I would not like to defect. I'm already American, but thank you for offering. What else do you need to know relevant to my buying insurance, opening a bank account, reserving a seat on a flight? Yes, I speak English. Yes, I carry explosives. They're called words. And if you don't get up off your assumptions, they're going to blow you away.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette anthologie, en fait, elle est aussi composée d'un essai de Jeanne Clausen, qui est une écrivaine, poétesse et militante lesbienne. Et comme on l'a dit, en fait, il y a tous ces poèmes qui sont en anglais et en français. Donc, tu as Jeanne Clausen qui explique qu'elle-même, au début, elle a négligé la poésie au profit de la fiction, qu'elle considérait comme une forme plus noble et digne d'intérêt. L'anthologie nous explique qu'aux États-Unis, le militantisme s'est construit à partir de ces textes et a produit, en fait, des endroits où la poésie pouvait fleurir, quoi. Et alors qu'en France, au contraire, c'est plus, on a plus vu des romancières ou des essayistes. C'est pas vraiment la même tradition littéraire, quoi.
Alors toi, c'est quoi ton poème préféré?
Bah, il y en a beaucoup, mais celui que j'ai absolument kiffé, c'est Litanie pour la survie d'Audrey Lorde, que je trouve tellement fort. Mais de toute façon, j'ai un truc avec Audrey Lorde. Et toi?
Moi, pareil. Alors, on va en écouter un extrait.
When our stomachs are empty, we are afraid we may never eat again. When we are loved, we are afraid love will vanish. When we are alone, we are afraid love will never return. And when we speak, we are afraid our words will not be heard nor welcomed. But when we are silent, we are still afraid. So it is better to speak, remembering we were never meant to survive.
Justement, Audrey Lorde ne cessait de le répéter, la question centrale du féminisme, c'est celle de la survie des femmes. C'est pour elle une révolution qui doit changer nos vies, parce que c'est vraiment au quotidien que le capitalisme et le sexisme maltraitent les femmes et les tuent. Et alors, pour rappeler un peu qui est Audrey Lorde, parce qu'on la connaît pas forcément en France, elle est née en 1934, elle est morte en 1992, et elle se définissait elle-même comme noire, lesbienne, féministe, mère, guerrière et poétesse, tout ça à la fois. Elle est née à Harlem, elle a eu plusieurs vies, elle a été libraire, elle a participé au mouvement pour les droits civiques, elle a été prof de littérature, d'ailleurs elle s'est battue pour la naissance des départements d'études noires dans une université de New York, et elle a d'abord été reconnue grâce à son livre « Call » et ensuite The Black Unicorn, donc la licorne noire. Elle a aussi écrit sur son cancer du sein, et tout au long de sa vie et dans son œuvre, elle a toujours demandé à ce que les minorités aient le droit à la poésie et à la beauté qu'elle voyait vraiment comme un moyen de rêver et de penser l'émancipation. Mais alors aujourd'hui, il y a un nouveau moyen de diffusion, on en a parlé dans l'introduction, c'est la poésie sur Instagram. Alors, vraie tendance ou arnaque?
Moi, alors, je dirais vraie tendance. On voit que tu as des comptes de poétesses comme Naïra Wahid, donc une poétesse afro-américaine, ou Rupi Kaur, qui est très connue maintenant. On voit que leur compte dépasse des centaines de milliers d'abonnés. On voit aussi que le recueil de Rupi Kaur, qui au passage avait été censuré en postant une photo d'elle ayant ses règles sur Insta, faut pas chercher les règles de Instagram. Donc son recueil Milk and Honey, désolé pour l'accent, qui a été auto-publié, a déjà été vendu à plus de 500 000 exemplaires, ce qui est absolument énorme pour un livre et encore plus un livre de poésie. Donc en fait, les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'ont aidé à se faire connaître et l'ont aidé à partager beaucoup plus facilement son travail. Une étude américaine qui a été publiée en 2018 par le site Quartzy le confirme. Instagram serait totalement à l'origine du regain de la poésie auprès des lecteurs américains. Donc, selon Claire Docero, qui est une éditrice, qui a été interrogée dans les Échos sur le sujet, Instagram, selon elle, donc, aide à se débarrasser du snobisme. Donc, on peut aussi citer le travail de Warsan Shire et de Ijeoma Umeyum Binyo, que j'adore.
Oui, c'est intéressant parce que ça a l'air d'être vraiment un effet collatéral d'Instagram, qui est quand même à la base un réseau censé accompagner des photos, ouais, et pas du tout des textes. Donc c'est assez surprenant, plutôt chouette. Et en fait, ces poèmes sont donc du coup souvent accompagnés d'illustrations et de pas mal de hashtags, par exemple Instapoète. Mais c'est vrai qu'il y a débat, puisque des lecteurs et des lectrices disent que c'est de la sous-poésie, du haïku de bas étage. Donc on vous laissera vous faire votre avis. Moi, je recommanderais aussi Amanda Lovelace, qui a écrit le recueil The Princess Saves Herself in the End. Donc, la princesse se sauve toute seule à la fin de l'histoire.
Ah là là, je vais te relire celui-là.
Et en français, on a Cécile Coulon, qui a écrit Les Ronces, également le conte Parisian Poetry. On peut aussi parler d'Amour solitaire, qui a été publié à la suite de son compte Instagram.
Et puis, moi, je vais citer pour une fois, je vais citer un homme.
Ok, ok.
qui s'appelle Gaël Barboza, qui écrit vraiment de la très jolie poésie. Un homme noir sur Instagram.
Et alors, pour parler un peu de notre expérience personnelle, je pense que toi, ça te touche particulièrement, Kémis, la poésie.
Oui, bah oui, tout à fait, puisque j'en ai écrit. Donc, j'ai écrit un recueil de poésie en 2018 qui s'appelle « À nos humanités révoltées ».
Tu es donc bien placée pour participer à cet épisode.
Mais du coup, en fait, pourquoi j'ai choisi la poésie ? Parce que je trouve que, alors, c'est plus simple et c'est plus percutant. Je trouve que c'est important d'avoir un médium littéraire qui nous permet d'avoir un propos à la fois militant, très politique et réfléchi, mais aussi un endroit où on peut exprimer ses sentiments et ses ressentis. Et c'est vrai que l'essai, c'est un peu plus compliqué. Donc, en plus, j'ai été vraiment inspirée et j'ai adoré la poésie de Maya Angelou. Pour citer les poèmes les plus connus, il y a Still I Rise et Phenomenal Woman. Mais j'ai aussi été beaucoup touchée par la poésie d'Audre Lorde. Et toi, alors ?
Alors, moi, je ne suis pas poétesse, hélas. pas encore. Je pense que ça n'arrivera jamais. Mais j'ai quand même fait une partie de mes études sur la poésie. Donc, je vous rassure, ça ne sert absolument à rien. On ne peut pas trouver de travail en étudiant la poésie. Mais moi, quand j'ai habité aux États-Unis, donc j'ai fait un mémoire sur un poète américain d'un courant qui s'appelle la New York School of Poetry, qui était un courant poétique des années 70 à New York. Et donc ce poète, c'est John Ashbery, qui est mort il y a peu de temps et que j'ai pu du coup rencontrer au moment où je faisais mes études. Donc c'était vraiment chouette. Et c'est vrai que pour moi, la poésie, c'est vraiment lié fortement à la langue anglaise et à une pratique assez vivante, enfin, le fait d'aller dans des cafés, dans des bars, à des soirées, alors qu'à Paris, ça m'a... Enfin, voilà, j'avais jamais assisté à ce genre de choses. Et moi, en France, j'avais surtout le souvenir d'apprendre des poèmes hyper rébarbatifs par cœur à l'école. Et je pense qu'effectivement, l'école a pas mal contribué à faire de la poésie un objet assez repoussoir, abscon, ridicule, voire inaccessible. Alors qu'en fait, en réalité, lire un poème de 5 lignes, c'est quand même plus simple que ça va aller à un pavé de 500 pages. Donc voilà, et on parlait des pays anglo-saxons, mais c'est vrai qu'en Scandinavie aussi, il y a un vrai revival de poésie, et notamment de poésie féministe. Alors pourquoi pas en France, justement ?
Alors du coup, sinon, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui connaît rien et qui aimerait s'y plonger ?
Alors, pour les personnes anglophones, moi, je conseillerais Frank O'Hara, qui vient du même courant, donc la New York School of Poetry. Lui a écrit ce qu'il a appelé des lunch poems, donc des poèmes qu'il écrivait pendant sa pause déj, en fait, puisqu'il travaillait au Musée d'Art Moderne à New York. Mm-hmm. Et c'est vraiment des poèmes qui sont écrits comme des conversations, donc je trouve ça moins intimidant à lire. On va écouter un petit extrait.
The poem's called Having a Coke with You. It's even more fun than going to San Sebastian, Irun, Ondi, Biarritz, Bayonne, or being sick to my stomach on the Travesera de Gracia in Barcelona. Partly because in your orange shirt you look like a better, happier Saint Sebastian.
Sinon, pour les féministes, il y a Adrienne Rich, donc qui est aussi dans ce recueil, et qui était aussi théoricienne. Elle a notamment parlé de ce qu'on appelle la contrainte à l'hétérosexualité. Et moi, j'aime beaucoup son recueil sur les rapports amoureux, qui est le bien nommé « Diving into the wreck », donc « Plonger dans le naufrage ». Voilà, c'est un beau programme.
C'est gay.
et sinon, bah, évidemment, il y a aussi Emily Dickinson, parce que c'est des textes très courts, comme des pensées. Et d'ailleurs, en ce moment, Apple se met au streaming et vient de concevoir une série sur Emily Dickinson avec Hailee Steinfeld qui s'appelle Dickinson. Et il y a aussi un film auquel on peut se référer qui s'appelle Quiet Passion avec Cynthia Nixon, donc la Miranda de Sex and the City.
Ceci est ma lettre au monde qui ne m'a jamais écrit.
Vous êtes seule dans votre rébellion. Mademoiselle Dickinson.
Et toi ?
Donc, je vais reprendre des anglophones. Et moi, j'adore Neil Hawahid. Je suis absolument fan de son recueil de poésie qui s'appelle Salt, son premier recueil. C'est ce que tu as dit, en fait, sur Emily Dickinson. C'est exactement la même chose. C'est beau, c'est court, c'est réparateur. C'est vraiment un boom. Moi, mon préféré de Neil Hawahid, c'est sur le corps qui devient un ami. Et j'aime vraiment beaucoup, en fait, ces auteurs et ces autrices qui visent à décomplexer et à démocratiser l'accès à la poésie. Et puis, je ne pourrais pas finir ce podcast sans citer quand même les poètes de la négritude, hein, notamment Léon Gontran Damas, qui a écrit un recueil de poésie qui s'appelle Black Lebel, qui est absolument magnifique. Et bon, bah, y a le grand Césaire, mais bon, ça va sans dire.
On ne présente plus.
Ça va sans dire.
Et alors justement, si on veut en voir un petit peu incarné sur scène, enfin hormis aller te voir toi, ce qui serait déjà pas mal, où est-ce qu'on peut voir du spoken word et de la poésie en France ?
Alors, en France, il y a des maisons de la poésie où on peut voir, il y a des événements de poésie, donc entre guillemets de spoken word, de récitation de poésie. Donc, il y en a une à Paris, il y en a à Marseille, il y en a à Nantes. À Marseille, il y a aussi le Centre international de poésie. Et à Paris, il y a le Bordel de la poésie.
Oui, donc ça, c'est des soirées. Et il y a aussi d'autres lieux qui donc ne sont pas ringards, sont vivants et on peut s'amuser. Je sais, ça a l'air incroyable. Il y a notamment le bar Culture Rapide à Belleville. Il y a le Rêve Café à Montreuil. Et, enfin, voilà, tout un tas de lieux autour de vous.
N'hésitez pas à nous dire ce que vous lisez comme poésie sur les réseaux sociaux @quadmeuf.
Et vous retrouverez toutes les références dont on a parlé dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode long. Salut, Kiémis.
Ciao, ciao, Clem.
Quoi de Meuf est une émission de Nouvelles Écoutes conçue par Clémentine Gallo
et présentée par Kiémis,
avec la participation d'Alice Heathwood à la lecture des poèmes, montage et mixage par Laurie Galligani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, à la prise de son, Éric Delarochette au studio Belleville et à la coordination, Achille Tola.